Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
C'est notre joie ce matin de conclure notre série de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à chapitre 7, verset 1. Nous travaillons actuellement sur cette lettre monumentale de l'apôtre Paul à l'église corinthienne, car elle a beaucoup à nous dire aujourd'hui au terme de notre propre vie chrétienne et de notre ministère. Au moment où nous nous sommes lancés dans ce paragraphe particulier, nous avons commencé à nous occuper de la question de la séparation des non-croyants, que Dieu lui appelait un peuple saint, à savoir l'Église, comme il le dit au verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous sommes un peuple saint pour le Seigneur, mis à part, sanctifié et séparé. » Nous allons terminer cette étude ce matin. Nous avons déjà couvert beaucoup de choses. Mais je souhaite ajouter à ce que nous avons déjà appris des choses qui, à mon avis, vont nous aider à voir la force et l'importance de ce problème. Soit dit en passant, un certain nombre de personnes m'ont appelé, m'ont écrit, m'ont parlé personnellement de tout ce que cette série représentait pour elles et de la manière dont elle a été appliquée de manière pratique aux problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur vie. J'étais encore au téléphone hier soir, conseillant quelqu'un sur cette question même de la relation entre croyants et non-croyants, dans une entreprise spirituelle, dans une activité religieuse. C'est un principe fondamental, absolument fondamental, pour comprendre la vie chrétienne et la vie de l'Église. Je veux vous donner un peu de perspective historique, si je le peux ce matin, et vous donner le contexte corinthien pour vous faire savoir que Dieu a toujours appelé son peuple à se séparer complètement de toute forme de fausse religion, pour leur fidélité, pour leur pureté, pour leur utilité, pour leur bénédiction, pour la gloire de Dieu, pour son nom, pour sa vérité. Dieu a toujours appelé son peuple à se séparer de la fausse religion. La fausse religion, bien sûr, détruit la foi de beaucoup. Ils mangent de manière destructive, comme une gangrène spirituelle. Cela a toujours eu cet effet. Et Dieu a donc toujours appelé son peuple à la séparation. Satan se déguise toujours en ange de lumière, invente des religions qui tentent de renverser les desseins de Dieu et de semer la confusion parmi le peuple de Dieu. C'est toujours son stratagème, passé, présent et futur. Ainsi Dieu a toujours abordé la question de son peuple, restant à l'écart de la religion satanique. Retournons au Pentateuque et voyons comment tout a commencé lorsque Dieu a d'abord identifié son peuple Israël. Si vous revenez au livre du Deutéronome, le 5e des livres de Moïse, qui constitue la loi, ou le Pentateuque, et passez au chapitre 7, nous obtiendrons un très bon aperçu de cette question de la séparation de la fausse religion. Dans le chapitre 7 du Deutéronome, nous lisons ceci. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, verset 1, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qui se trouve dans le pays de Canaan, le pays d'Israël, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque vous entrez dans le pays, le Seigneur efface le chemin pour vous, en vainquant ces peuples qui sont plus grands et plus forts que vous. » Verset 2. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, tu les auras livrés, et que tu les auras battus. Tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. C'est un ordre très direct, de les tuer. Il appelle, en un mot, à une forme de génocide. Éliminez-les, bloquez-les, exterminez-les. C'est un commandement si puissant qui fait frémir les théologiens libéraux, et en déduit que, de toute évidence, il ne s'agit pas d'une représentation fidèle de Dieu, car Dieu est amour, et que Dieu ne donnerait jamais un tel ordre, et encore moins l'ordre d'exécuter. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu dit « Exterminez ces nations » Le commandement ne peut être concilié avec le caractère patient, gracieux et aimant de Dieu, qui est vrai à son sujet, que si vous comprenez certaines choses. Si vous comprenez, par exemple, l'énorme méchanceté de ces personnes, si vous comprenez l'énormité de leur idolâtrie, si vous comprenez la sévérité de leur blasphème de Dieu, si vous comprenez qu'il s'agit d'une idolâtrie si grossière, si meurtrière, si incorrigible, si désespérée et sans repentance, qu'il a le potentiel d'effets dévastateurs sur les desseins de Dieu, vous pouvez alors comprendre pourquoi Dieu a appelé à leur extermination. Le Nouveau Testament dit « La société du mal corrompt les bonnes mœurs ». Le fait que les enfants de Dieu vivent côte à côte avec ces idolâtres blasphématoires, incorrigibles, méchants et impénitents, dont les crimes avaient atteint ses oreilles jour après jour, ne pouvait que se terminer par la corruption du peuple de Dieu. Dieu ne pourrait pas préserver son peuple s'il s'associait à de telles nations idolâtres. Dieu savait qu'ils avaient atteint le point de grâce. Le repentir était passé, pas à l'horizon. Ils étaient figés dans leur impénitence. Ils étaient résolus. Ils étaient donc sans espoir. Dieu n'allait pas permettre au cancer de leur blasphème de compromettre totalement ses propres desseins éternels. Alors il a appelé à leur destruction. Après cela, au verset 2, il est lucide. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Aucune alliance, ni aucun compromis. Vous traitez de façon dramatique et finalement avec eux. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Nous avons posé la question il y a 2 semaines. Cela signifie-t-il que lorsqu'il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, que les chrétiens ne devraient pas épouser des non-chrétiens. Certainement, c'est vrai. Les chrétiens ne devraient pas épouser des non-chrétiens. C'est être sous un joug inégal, parce que le mariage est une relation spirituelle. Mais si vous recherchez quelque chose de plus spécifique, le voici. Il s'agit d'une interdiction faite au peuple de Dieu de se marier avec des personnes qui ne sont pas son peuple. Pourquoi ? Le verset 4. Car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Comme nous l'avons vu avec Salomon, un homme non moins fort, sage et béni, car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il y a beaucoup en jeu. Vous ne pouvez pas vous permettre un compromis. Vous devez exterminer ces personnes, sinon elles vous influenceront de manière dévastatrice. Vous ne pouvez pas vous mêler à eux. Cela ne peut se faire sans des résultats tragiques. Verset 5. Voici au contraire. Comment vous agirez à leur égard? Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ce sont des lieux et des morceaux de leur culte. Intéressant. Enlevez leurs temples, écrasez-les, abattez leurs autels, détruisez tout ce qui fait partie de la religion abominable qu'ils pratiquaient. Vous devez faire cela. C'est comme se débarrasser d'un virus mortel. Vous devez le tuer à chaque endroit. Vous devez en éliminer tous les vestiges, car le risque de contamination spirituelle est si élevé. Nous entendons parler de virus potentiellement mortels qui pourraient survenir dans notre monde, tels que le virus VIH et d'autres virus que nous entendons parfois apparaître dans certaines parties du monde, comme nous l'avons fait récemment pour un virus qui était si meurtrier sur notre territoire de l'Afrique. L'horizon de l'histoire humaine, c'est-à-dire que nous en prenons conscience, pourrait en produire beaucoup plus. Et avoir un effet dévastateur tel que nous n'avons jamais rêvé de le faire à l'avenir, comme c'est souvent le cas dans le passé. Nous en sommes très conscients, mais un virus beaucoup plus sévère que tous ceux qui détruisent le corps est celui qui attaque la dimension spirituelle. C'est le virus du faux système religieux satanique. Ce passage est d'ailleurs devenu un mandat pour les réformistes écossais. J'ai beaucoup lu ces derniers temps sur John Knox. Nous pensons bien sûr à John Knox comme au grand prédicateur qui a vraiment joué un rôle majeur dans la fondation du presbytérianisme écossais. À ce jour, lorsque vous prêchez en Écosse, la chaire de l'Église d'Écosse s'appelle la chaire John Knox. Nous pensons que John Knox est un grand réformateur, un grand prédicateur de l'Évangile. Maintenant, il était un homme très agressif, presque un homme en guerre. John Knox a attaqué la fausse religion avec vengeance. En fait, les réformateurs écossais on recherchait tous les édifices, tous les bâtiments qui restaient du terrible culte romain. Ils les ont tous brisés, à la grande consternation des amateurs d'architecture, qui essayaient de préserver les images architecturales. Mais la maxime de John Knox était juste. John Knox a déclaré « Abattez les nids et les oiseaux disparaîtront. Ici, vous avez une situation très similaire. Ce peuple particulier de Dieu, la nation d'Israël, dans le pays de Dieu, reçoit ce mandat direct de Dieu. Je me hâte d'ajouter, je ne pense pas que nous puissions briser les bâtiments de fausses religions sans un mandat aussi divin, aussi bien intentionné que puissent avoir été les réformateurs écossais. Ils auraient peut-être outrepassé leurs limites. Mais certainement, il ne fait aucun doute que les réformistes écossais ont l'intention de préserver leur influence, ou de préserver leur peuple de l'influence d'une fausse religion. C'est tout autour de nous, et nous devons venir et en être séparés. Dieu donne la raison au verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. » Le mot « saint » signifie « séparé, sanctifié, mis à part. » Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Vous êtes séparés d'eux. Il t'a appelé. Vous êtes sa possession. Vous n'appartenez à aucune autre personne, ni à aucune autre divinité. Ainsi, très tôt dans la révélation rédemptrice de Dieu, il devient très clair que le peuple de Dieu doit s'assurer qu'il n'a ni alliance, ni échange avec une fausse religion. Dans Deutéronome 7, prenez le point de vue collectif, dans une perspective collective, et tournez-vous vers Daniel, chapitre 1. Ici, nous ne regardons pas un groupe de personnes autant que des individus. Nous rencontrons quatre jeunes hommes, Daniel et ses trois amis, Michaël, Anania et Azaria, qui sont leurs noms juifs. Nous sommes familiers à quiconque connaît les récits bibliques. Nous trouvons ici une situation très similaire. Daniel 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Remarquez, s'il vous plaît, que le Seigneur a permis aux Babyloniens de gagner parce que leur captivité était une punition pour l'apostasie d'Israël. Donc, Dieu était dans ce cas du côté des Babyloniens, au moins 70 ans avant leur retour à la terre, en réalité plus longtemps que celui de la déportation. Donc voici Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Jérusalem, l'assiégeant, remportant la victoire. Et Nebuchadnezzar emporta une partie des ustensiles de la maison de Dieu, au pays de Shinear, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors ils ont pillé le temple, rempli de toutes sortes d'or, et en tout transporté à Babylone, et l'ont mis dans le temple de sa propre divinité. Il n'avait aucun problème à mélanger les divinités. Il n'avait aucun problème à mêler les cultes. Comme nous l'avons noté précédemment dans nos études sur le même sujet, Dieu a beaucoup de difficultés avec cela. Vous ne mettez pas d'idole dans le temple de Dieu, et vous ne mettez pas Dieu dans un temple d'idole. Comme nous l'avons vu dans le cas de 1 Samuel 4 à 6, et le cas d'Ézéchiel, chapitre 8. Mais évidemment, Nebuchadnezzar n'a pas eu de problème avec cela. Il avait beaucoup de dieux, et jeter les vaisseaux d'une autre divinité dans le temple ne ferait aucune différence. Il y a donc le pillage de Jérusalem. Dans cette situation particulière, il y a eu une première expulsion, c'est-à-dire qu'ils ont emmené des personnes captives, les Juifs captifs au pays de Babylone. Ils voulaient maintenir la terre d'Israël en tant qu'État vassal. Il voulait qu'Israël soit économiquement productif, et donc il voulait y laisser des personnes qui pourraient continuer à fonctionner dans le pays, afin d'accroître la richesse et la prospérité de Babylone, travaillant pour son compte. La première déportation est décrite au verset 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. C'est la première déportation, vers 606 avant Jésus-Christ. De race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait, c'est-à-dire, Ashpenaz, la littérature et la langue des Chaldéens. Maintenant, voici en gros le plan de Nebuchadnezzar. Il attaquait Jérusalem. Le problème était son premier coup, en 606 avant Jésus-Christ, quand il apprit que son père, Nabopolassar, était décédé. C'est pourquoi, au tout début de sa campagne, il a dû retourner à Babylone à cause de la mort de son père. Des treks comme cela n'étaient pas faciles, et c'était un déménagement majeur. À son retour, il a dû changer de plan. N'ayant pas le temps de mettre en place son propre gouvernement, il décida de laisser le roi juif, Jéhoiakim, au pouvoir, mais fondamentalement, le dépouiller de tout le monde autour de lui et de tout espoir de pouvoir futur. Ainsi, il prit des membres de la famille royale et des nobles. Sans doute étaient-ils des otages. Il a probablement menacé Jéhoiakim en lui disant que s'il ne faisait pas ce qu'il voulait, il tuerait sa propre famille et ses propres nobles. Il avait pris les meilleurs d'entre eux, décrit au verset 4, les plus beaux, les plus intelligents, les plus sages, les plus perspicaces, ceux qui possédaient le genre de capacité dont pourraient se servir les plus hauts niveaux de gouvernement de ce pays. Comme je l'ai dit, il n'a pas eu le temps de créer sa propre opération en Juda. Il voulait donc exercer son influence sur le roi, pour que celui-ci fasse ce qu'il voulait. Mais il avait aussi un autre plan en tête. Il a pris les chefs d'élite de la nation, tous les jeunes hommes doués et capables, et les a pris, afin de pouvoir leur faire subir un lavage de cerveau dans la culture chaldéenne, car il avait besoin de quelqu'un pour gérer les affaires juives. Maintenant, il y a un tas de juifs déportés d'Israël, dans son propre pays. Trois déportations vont avoir lieu. La dernière en 586 avant Jésus-Christ, trois déportations majeures de juifs. Ce peuple juif pourrait constituer un groupe terroriste révolutionnaire, réactionnaire, au centre de Babylone, s'il n'était pas contrôlé. L'idée était donc de recruter les meilleurs jeunes hommes, de les former, et de les utiliser pour gérer les affaires juives. Ils comprendront les juifs, ils comprendront comment ils pensent et comment ils fonctionnent. Mais ils vont s'habituer à la culture chaldéenne. Alors le processus de lavage de cerveau était ce qu'ils recherchaient, et ils voulaient laver le cerveau des meilleurs parmi eux. Puis, le moment venu, ils pouvaient renvoyer Jéhoiakim installait quelqu'un qui était juif, mais qui avait subi un lavage de cerveau efficace dans la culture chaldéenne, tout en ayant des jeunes hommes pour gérer des affaires à Babylone, à l'égard du peuple juif. Il ne voulait que les meilleurs, uniquement ceux qui étaient la crème de la crème. En effet, il a choisi de très jeunes hommes. Vous remarquerez maintenant, à la fin du verset 4, que l'idée était de leur enseigner la littérature et la langue des Chaldéens. C'était de la théologie, parce que la littérature des Chaldéens était de la théologie. Vous ne pouviez pas séparer leur culture de leur religion. Leur religion était leur culture. Leur culture était simplement composée de magie, de sorcellerie, d'enchantement, de présages, de prières, d'hymnes à leur divinité, une multiplicité de divinités, de toutes sortes de légendes sur les divinités, une théologie très complexe, totalement étrangère à la vérité. Et étrangère au vrai Dieu. Croyez-moi, il voulait que ces jeunes oublient Jéhovah, oublient le vrai Dieu vivant et adorent la trinité babylonienne, Danu, Enlil et Ea. Alors ils ont commencé à leur enseigner la théologie. Il s'agit d'un programme de formation de 3 ans. Comme vous le remarquerez un peu plus loin dans le chapitre, une reprogrammation de 3 ans, un processus de lavage de cerveau de 3 ans. De plus, au verset 5, ils voulaient modifier non seulement leur propre théologie, mais aussi dans le cadre de ce lavage de cerveau, modifier leur style de vie et les entraîner dans le culte païen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Maintenant, souvenez-vous, ces jeunes hommes appartiennent à la famille royale et ils sont les nobles d'Israël. Donc la nourriture raffinée n'était pas nouvelle. Ils vivaient probablement dans et autour du palais de Jérusalem, qui était extrêmement prospère. Rappelez-vous qu'avant la destruction de ce temple, c'était le temple de Salomon. C'était une nation riche et prospère. Ces indications sont données même dans les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, qui ont prophétisé la captivité à venir. Mais il y a encore des notes sur la richesse et la prospérité de la nation. Donc ces jeunes hommes n'étaient pas particulièrement épris de la bonne nourriture et du bon vin. Cela leur était possible par le passé. Le problème ici est qu'ils s'engageaient littéralement dans des fêtes d'idoles parce que, comme nous l'avons constaté avec les Corinthiens, la nourriture et les boissons servies lors des fêtes d'idoles faisaient partie de la célébration de leur service religieux. Ainsi, cette nourriture, qui venait du roi, serait une nourriture dédiée aux divinités. La nourriture et le vin choisi par le roi feraient partie d'un festin pour les divinités, et elles seraient littéralement engagées à le manger dans ce genre de contexte. Ce n'est pas parce que la nourriture n'avait rien de mal, mais ils se laisseraient aller, pour le dire en termes de Paul, dans les tableaux de démons. Ainsi, le verset 8 dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Daniel savait qu'il ne pouvait pas se laisser entraîner dans ce style de vie païenne, ce style de vie religieuse. Il y avait encore plus. Revenez au verset 6. Ils ont fait une autre chose très sage. Ils ont essayé de changer l'identité des personnes, de changer leur théologie, de changer leur forme de culte et de changer leur identité. Il y avait 4 jeunes hommes, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le commandant des fonctionnaires leur a attribué de nouveaux noms. Pour Daniel, qui signifie « Dieu et juge », nom magnifique, « Dieu et juge », il a donné le nom de Belteshazzar. Anania, qui signifie que le Seigneur est miséricordieux en hébreu, il donna le nom de Shadrach, associé au terme Aku, ou Marduk, l'une des idoles de Babylone. Pour Michaël, un beau nom. C'est vraiment un nom qui signifie, qui est comme le Seigneur, ou littéralement, qui est ce qu'est le Seigneur. Il lui donne le nom de Meshach, qui signifie, qui est ce qu'est Aku. Aku était le dieu de la lune. À Azaria, qui signifie « Le Seigneur est mon aide », ils ont donné le nom d'Abed-Nego, serviteur de Nebo, dieu de la sagesse et de l'éducation. Donc le lavage de cerveau était assez complet. Changer leur théologie, changer leur mode de vie, les impliquer dans les festivals d'idoles, changer leur nom pour que chaque fois que vous leur parlez, chaque fois qu'ils doivent s'identifier, ils s'identifient à nos dieux et nous les éloignons du vrai Dieu. Le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Au verset 9, Dieu lui accordait toujours faveur et grâce devant le chef des eunuques, mais il ne se souillerait pas. Pour ne pas se souiller, le mot « souiller » vient de « ga'al » en hébreu. Cela signifie « tacher » ou « polluer ». Il voulait tout faire pour éviter ce compromis. Tout faire pour se déconnecter de la fausse activité religieuse. Il n'adorerait que le vrai Dieu. La seule chose qui se démarquait était la nourriture, parce qu'elle constituait l'engagement d'un festin d'idoles. Il ne le ferait pas plus que ses amis. Dieu les a honorés, et lorsque le temps des 3 années a passé, ils étaient en meilleure santé et avaient un meilleur intellect que les autres. Dieu les a bénis pour leur esprit de non-compromission, leur esprit de préservation de la vérité. Finalement, cela coûtait cher, et Daniel s'est retrouvé dans une fosse au lion. Anania, Azaria et Michaël se retrouvèrent dans une fournaise ardente. Satan tentera toujours de polluer la vraie religion, en entraînant le peuple de Dieu dans des alliances impies avec la fausse religion. Nous devons nous séparer complètement de toutes les formes de fausse religion. J'ai reçu une lettre ce matin d'une personne de l'Église catholique romaine qui m'a demandé si je serais disposé à participer à un débat public avec des théologiens de ce système, car ils m'écoutent. Ils savent que j'ai quelques griefs, et ils aimeraient en débattre publiquement. Dans ma tête, je vois même cela comme une forme de compromis, car je vais attirer les personnes qui viennent m'entendre dans le dévoilement de la plus subtile de leur idéologie, par leurs meilleurs défenseurs. Je ne veux pas faire cela, et je le leur dirai. Je ne veux rien faire qui puisse permettre à Satan de semer la confusion. Je retourne à mes jours de collège. J'avais un bon ami à l'université, et nous avons joué ensemble dans l'équipe de baseball. Nous étions de bons amis, parce que nous participions tous deux au ministère chrétien. Nous avons beaucoup travaillé avec Jeunesse pour Christ, et avec des jeunes, et nous avons passé de bons moments ensemble, voyageant en tant que joueurs et étudiants. Nous avions tous deux ressenti l'appel de Dieu au ministère. Je suis parti au séminaire Talbot pour étudier avec le docteur Charles Feinberg, qui est devenu mon mentor à l'époque de mes études. J'ai eu le privilège et la joie de prendre la parole à ses funérailles vendredi. Il est parti auprès du Seigneur la semaine dernière, à 86 ans. Il a laissé son empreinte sur ma vie. Je répétais aux personnes à l'enterrement l'impact qu'il a eu sur ma vie, et c'est énorme. Dans une large mesure, Je suis ce que je suis, au service de Dieu, à cause de lui. Mon ami est allé à un séminaire libéral. Nous nous sommes séparés. 3 ans plus tard, je suis sorti comme exposant de la parole. Il est sorti barman. Toute sa foi était dévastée. Tout était dévissé, débloqué, et s'envolait librement dans le chaos et la confusion. J'ai vu cela se produire encore et encore. De tels compromis sont mortels pour la vérité. Ils enlèvent la conviction des personnes. Il y avait un théologien très prononcé, très respecté dans cette région du sud de la Californie. Il avait écrit de formidables ouvrages sur la défense de la foi chrétienne. S'était impliqué dans l'étude de l'erreur théologique et avait fini par devenir si confus qu'il s'était tué. Cela arrive. Nous devons rester séparés de cela. Et nous devrons nous le rappeler tout le temps, car Satan est subtil dans son désir de nous influencer. C'est précisément ce problème que nous voyons dans Deutéronome et dans Daniel, et que nous abordons maintenant dans 2 Corinthiens. Je sais que c'était une longue introduction, mais j'ai un court sermon. Les Corinthiens faisaient exactement cela. Ils allaient à la table du Seigneur et à la table des démons. Ils allaient s'engager avec les prostituées dans le temple d'Aphrodite. Ils allaient à des festivals, des cérémonies et des célébrations, puis venaient à la table du Seigneur et venaient à l'église. Ils invitaient même de faux enseignants dans l'église, les écoutaient et les croyaient. De telles alliances sont blasphématoires. Et ainsi Paul dit au verset 14, « Ne soyez pas liés avec des incroyants. » Il parle ici de toute entreprise spirituelle. Comme nous l'avons noté pour vous dans 2 Timothée, chapitre 2, cela se propage comme une gangrène. Vous ne pouvez pas vous exposer à cela sans effet dévastateur. Dans 2 Timothée 2:15, Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est votre travail de gérer avec précision la parole de vérité. » Ensuite, il dit immédiatement, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Ce sont les poubelles déshonorantes qu'il décrit comme des vases de déshonneur. Ce n'est que lorsque vous vous purifiez de toute association avec eux que vous pouvez devenir un vaisseau d'honneur, sanctifié et utile au maître, préparé à tout bon travail. » Puis il poursuit en disant, « Fuyez les désirs des jeunes, mais fuyez d'abord les faux docteurs et la fausse religion. Ne restez pas assis à quelque endroit et ne vous exposez pas à l'erreur. Satan est trop subtil pour cela. Il va vous déjouer et voler votre force. C'est le commandement. Ne soyez pas liés avec des incroyants. 5 raisons. La raison numéro 1 que nous avons vue est irrationnelle. Au verset 14 et 15, il dit, « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou avec Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Rien. C'est irrationnel de faire une telle alliance. Deuxièmement, c'est un sacrilège. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu marche en nous. Nous sommes à lui et il est à nous. C'est un sacrilège de nous engager avec des idoles, avec une fausse religion, avec un culte démoniaque. Se mêler est une forme de blasphème. Troisièmement, c'est désobéissant. Le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est un mandat divin. C'est le même qui a été rendu dans Ésaïe 52:11 et c'est répété ici. Le Seigneur dit de se séparer. Ceci vient du Seigneur. Paul dit, « Je vous dis cela, mais je dis aussi que le Seigneur vous dit la même chose. Tu es appelé à obéir à cet ordre. Ne pas se séparer des incroyants est irrationnel, un sacrilège et désobéissant. Quatrièmement, cela n'est pas rentable. Car si vous vous séparez, fin du verset 17, Dieu dit, « Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ne pas faire cela, c'est se couper de la bénédiction d'être un enfant de Dieu. Il y a une grande bénédiction, une récompense immense pour le chrétien qui ne fait pas de compromis. Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants. Nous devons répudier toutes les alliances religieuses et spirituelles contaminantes avec les ténèbres, l'anarchie, le péché et Satan. Sinon nous perdrons les joies de la communion obéissante. Je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui s'engage continuellement dans de telles alliances peut en fait révéler qu'il n'est après tout même pas un enfant de Dieu et qu'il n'a jamais été réellement délivré de ses péchés. Cependant, ceux d'entre nous qui ont compris savent que si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme des enfants, saints, séparés pour lui. Donc, ne pas obéir à ce commandement est stupide, dans tous les sens du terme. C'est irrationnel, c'est un sacrilège, c'est désobéissant, ce n'est pas du tout rentable. Dernier point, c'est ingrat. Le verset 1. C'est une pauvre rupture de chapitre. Vous devriez juste prendre le titre chapitre 7 et le placer après le verset 1. Le verset 1 dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est un grand verset. Vous pouvez prendre ce verset et prêcher pendant 6 mois sur la doctrine de la sanctification progressive. Je ne vais pas faire cela, mais il y a tellement de choses ici sous forme de semences qui pourraient s'épanouir pleinement. Mais laissez-moi juste le garder dans son contexte. Paul nous donne le dernier motif pour obéir à l'ordre, le dernier motif pour se séparer des non-croyants, dans une association religieuse. Le dernier est, clairement, à cause des promesses de Dieu. Donc, inférence logique, conséquence de tout ce qui vient d'être dit. C'est pour cela que ces promesses nous ont permis de nous purifier. En d'autres termes, il n'appelle pas à commander ici, mais à promettre. Il y a des commandements. Il en a parlé plus tôt, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Nous devons obéir à ces commandements, avec un regard saint pour le châtiment de Dieu, si nous ne le faisons pas. Mais il va au-delà des commandements de promesses. Ayant ces promesses bien-aimées, les promesses deviennent alors le motif final. Les promesses devraient susciter de l'amour, de la gratitude. Nous devrions être tellement dépassés par une telle générosité, un tel privilège gracieux, une telle miséricorde, une telle bénédiction. Je veux dire, quand nous disons que nous sommes le temple du Dieu vivant, et que Dieu dit « J'habiterai en eux, marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quand Dieu dit « Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Telles sont les promesses dont il parle, ayant ces promesses que Dieu habitera en nous, marchera en nous, sera notre Dieu, et nous serons son peuple. Que Dieu nous embrassera, sera notre père, et nous serons ses enfants. Il y a 7 déclarations distinctes dans ces 2 versets, les versets 16 et 18, qui parlent de promesses. Quand nous comprenons ces promesses, bien-aimés, comment pouvons-nous faire moins que nous purifier de toute souillure? C'est un appel à la bonté de Dieu, à la miséricorde. Ce n'est pas différent en réalité de cet appel le plus remarquable et le plus familier dans Romains 12, où Paul dit « Je vous exhorte à présenter votre corps comme un sacrifice vivant et saint. » Il appelle également à la séparation. « Saint » signifie se séparer, être acceptable pour Dieu. Ne soyez pas conformés au monde. Vous quittez le monde, vous sortez du système. Vous êtes transformé par le renouvellement de votre esprit. Vous vous présentez comme un sacrifice séparé et acceptable pour Dieu. Et vous faites tout cela. Je vous exhorte à le faire. Sur quelle base? Je vous exhorte donc par la miséricorde de Dieu. Je vous supplie par la miséricorde de Dieu. Quelles sont les miséricordes de Dieu? Toutes les choses miséricordieuses qu'il fournit aux pécheurs dans son salut. Tout ce dont Paul parlait dans les 11 premiers chapitres de Romains. Sur la base de l'amour souverain de Dieu, son dessein prédestinant, sur la base de l'appel de l'évangile de Dieu, sur la base de la justification, sur la base de la régénération de Dieu dans votre vie, sur la base du fait que Dieu vous a accordé le Saint-Esprit et vous a donné un héritage avec les saints, pour que vous soyez un héritier conjoint avec Jésus-Christ, sur la base du don de Dieu ou de la promesse du ciel, de la vie éternelle, de l'espoir de la vie éternelle, de l'assurance, sur la base de tout cela, de toutes ces miséricordes, signifiant que vous ne méritez aucune d'elles. Sur la base de tout cela, ne pouvez-vous pas au moins vivre une vie séparée? Si vous ne pouvez pas, c'est une ingratitude flagrante. Écoutez ce que dit Pierre, car Pierre fait le même appel. C'est l'un de mes passages préférés de l'Écriture. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance, le pouvoir divin de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je tiens à cette déclaration. Il nous a accordé tout ce qui concerne la vie et la piété, à travers la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et son excellence. Par ces derniers, il nous a accordé ces précieuses et magnifiques promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Voici Dieu, grâce à notre connaissance de Jésus-Christ, à sa gloire et à son excellence. Il nous a fait des promesses précieuses et magnifiques dans l'Évangile, qui nous ont fait participer à la nature divine et nous ont fait échapper à la corruption du monde. Dieu a été si miséricordieux. Maintenant, pour cette raison même, il dit au verset 5 « Appliquez toute votre diligence dans votre foi et fournissez une excellence morale. Commencez à vivre la vie, dit-il. Quand vous avez reçu toutes ces magnifiques promesses, comment pouvez-vous faire moins que de répondre avec obéissance ?» C'est exactement ce que nous avons dans ce texte de 2 Corinthiens. Revenons à cela. Il ne pouvait pas le dire plus directement. Ayant ces promesses, bien-aimé, est une expression de tendresse de Paul pour le peuple. Mais elle définit également les limites de ceux qui reçoivent ces promesses. Seulement les bien-aimés de Dieu. Seulement ceux acceptés par le Fils bien-aimé qui est Christ. Paul aime utiliser cette phrase. Il l'a utilisée 2 fois. Ou ce terme. Il l'utilisa 2 fois dans 1 Corinthiens, 2 fois dans 2 Corinthiens pour se référer aux croyants. C'est une expression de tendre affection, mais c'est aussi un moyen de fixer des limites aux promesses. Ceux d'entre nous qui sommes les bien-aimés, qui avons reçu les promesses, nous devons nous purifier de toute souillure de chair et d'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Comment pouvons-nous faire moins que cela par pure gratitude? Le fait que nous ayons une telle miséricorde, de telles promesses, devrait être si convaincant que nous ne pouvons que répondre avec gratitude. Au fait, Dieu déteste l'ingratitude. Une des choses que Dieu déteste est un cœur ingrat. Dans Romains, chapitre 1, 21, Dieu juge les hommes parce qu'ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. Sa colère est déversée sur eux parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. Dieu condamnera les non-croyants en les jugeant pour leur ingratitude, c'est-à-dire que l'ingratitude d'un incroyant offense Dieu. Combien plus l'ingratitude d'un croyant l'offenserait-il, à qui il a donné tout ce qui concerne la vie et la piété? Un chrétien ingrat est sûrement le pire de tous ceux qui se tiennent devant Dieu dans sa grâce. Il y a beaucoup de péchés que Dieu doit classer moins nocifs que l'ingratitude envers celui qui nous a tant donné. Dans Colossiens 2:7, l'apôtre Paul déclare que nous devrions déborder de gratitude. Que signifie cette gratitude? Un négatif et un positif. L'acte de gratitude approprié est décrit de manière négative et positive. Le négatif. Laissons-nous nettoyer nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit. Nettoyons-nous nous-mêmes. Nous devons le faire. Bien sûr, le travail de purification est le travail de Dieu, mais cela ne se produit pas en dehors de nous. C'est comme dans Philippiens 2. Travaillez pour votre propre salut, car c'est Dieu qui travaille en vous pour vouloir et faire son bon plaisir. Dieu le fait. Mais nous devons le faire aussi. Cela appelle notre réponse. Nous devons agir pour éviter toute ingratitude et profanation du temple de Dieu. Remarquez le mot souillure, très important. C'est la seule fois où il est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est un mot spécial pour souiller.
C'est le mot molusmos.
3 fois. Il est employé dans la Septante. Chaque fois qu'il est utilisé, il fait toujours référence à la souillure religieuse. Pas seulement la souillure d'immoralité. Le mensonge, la tromperie ou la convoitise, mais la souillure religieuse, telle que les idoles, les fêtes d'idoles, les prostituées du temple, les sacrifices, les fêtes de louanges. C'est une souillure religieuse. Nettoyons-nous de toute souillure religieuse, toute alliance impie avec la fausse religion, l'erreur et l'hérésie. Puis Paul dit, de chair et d'esprit, juste un mot à ce sujet. Dans un sens, cela pourrait simplement être une façon de dire « complètement ». Cela pourrait être une façon de dire « intérieurement et extérieurement ». Mais je pense qu'il y a plus à faire que cela. Je pense qu'il dit là que le faux enseignement, la fausse religion peut souiller la chair en développant l'appétit de l'homme. Il peut faire cela. Je pense au mormonisme, à ses débuts. Le mormonisme a grandi en grande partie à cause de sa perspective sexuelle pervertie. Il offrait la polygamie. C'est un excellent moyen d'attirer une foule d'hommes lubriques dans votre religion, n'est-ce pas? Bien sûr, le mormonisme nous promet que la quintessence est celle où vous mourrez, et si vous avez vécu une vie mormone convenable et traversé les étapes appropriées, vous occuperez un jour votre planète personnelle. Vous et votre conjoint éternel s'engageront dans le sexe céleste pour toujours. C'est là l'origine du mormonisme, et c'est ainsi qu'ils ont vendu le système à ses débuts. Ce n'est pas différent de l'une de ses anciennes formes de religion, avec les prêtresses du temple, qui sont des prostituées. Il existe des formes de religion qui flattent la chair, des formes de fausses religions, qu'elles souillent ou non le corps. Certains le font. Historiquement, beaucoup l'ont fait. Ainsi, certains chrétiens pourraient dire, par exemple, dans l'église corinthienne, « Regardez, je vais là-bas parce que vous savez, ma belle-mère veut que je vienne, essayant de sauver mon mariage. Toute ma famille est engagée dans cela. Je suis un nouveau chrétien. J'aimerais pouvoir les gagner. J'y vais, mais je ne vais pas là-bas où se trouvent les prostituées. Et moi, je suis vraiment en train de mettre un terme à la consommation d'alcool. Je ne me saoule même pas. Je ne fais rien de tout cela. J'y vais juste parce que c'est, vous savez, c'est bien. Je ne veux pas manger de nourriture parce que je ne veux pas m'engager dans l'affaire des idoles. Alors, vous savez, j'ai un déjeuner dans mon sac. Donc, je suis vraiment à la hauteur. J'y vais, mais c'est tout. C'est une bonne pensée. Mais le fait est que la fausse religion souille la chair et l'esprit. Il va au-delà de l'appétit humain et souille l'esprit, la compréhension, la pensée et la vérité. Même si un chrétien pouvait éviter la contamination des péchés charnels lorsqu'il assistait à de faux cultes, tels que l'ivresse, le sexe, la gourmandise, etc., il ne pourrait pas se permettre d'exposer son esprit aux mensonges de Satan. Parce que là où son corps pourrait échapper à la pollution immédiate, son esprit serait contaminé et pollué par les idéologies diaboliques et les blasphèmes qui assaillent la pureté de la vérité divine et blasphèment le nom de Dieu. Alors Paul dit, « Nettoyons-nous de tout cela, et voici le point positif. Perfectionnez la sainteté dans la crainte de Dieu. Perfectionnez, epitheleo. Theleo signifie terminer. Jésus a utilisé ce mot quand il a dit « c'est fini » sur la croix. Epitheleo signifie vraiment finir. C'est un verbe composé. Pas seulement commencer, mais complet. Ce qu'il dit, c'est de poursuivre la fin de la sainteté avec le respect que l'on doit à Dieu. Poursuivre la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La séparation de tout ce qui souille à la fois votre corps et votre esprit. Poursuivre la sainteté. Poursuivre le Christ qui est la perfection de la sainteté sous forme corporelle. C'est ce que Paul voulait dire quand il a écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Quel est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Qu'allons-nous avoir lorsque nous serons appelés? La ressemblance au Christ. C'est ce que je poursuis. Je poursuis la sainteté du Christ. Romains 8. Nous étions prédestinés à nous conformer à son image, à l'image du Christ. Tout d'abord Jean 3. Un jour nous lui ressemblerons. C'est notre objectif. Nous recherchons la ressemblance de Christ. Nous poursuivons sa sainteté. Pourquoi? Dans la crainte de Dieu. C'est notre motivation, la révérence pour Dieu, l'adoration. Cela ne signifie pas que nous avons peur de Dieu. Cela signifie que nous avons un respect saint pour lui. Nous savons qu'il est un Dieu saint. Si nous lui appartenons, nous devons être un peuple saint. Retournez à Lévitique 20, 21, 22. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Il le répète encore et encore. C'est pourquoi vous devez obéir. Vous devez vous séparer. Vous devez être pur. Vous devez être saint. Car je suis le Seigneur votre Dieu. Si vous vous identifiez à moi, vous vous identifiez à la sainteté. Si vous me respectez, si vous m'honorez, si vous m'aimez, vous poursuivrez la sainteté. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Recherchez cette perfection. Poursuivez cette vertu. Poursuivez cette sainteté qui est vraie de Dieu et se manifeste en Jésus-Christ. Lévitique 20, 26 dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Au chapitre 21, il dit, « Moi, le Seigneur qui vous sanctifie, je suis saint. » Et il continue ainsi. C'est par respect pour Dieu. C'est une crainte et un respect pour lui. En tant qu'acte de culte reconnaissant, nous recherchons la sainteté. Donc, le dernier point, la désobéissance à ce commandement est un acte d'ingratitude. C'est être ingrat. Nous ne voulons pas être ingrats parce que Dieu a fait de magnifiques promesses. Nous nous purifions de toute souillure religieuse. Nous nous séparons complètement et nous poursuivons cette séparation qui est caractéristique de Dieu, qui est complètement séparée du mal et de tout faux enseignement. Nous poursuivons cette perfection de Dieu manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ, qui était séparé des pécheurs, saint, inoffensif et non souillé. Nous le faisons par respect pour Dieu, qui a été si aimable avec nous. Inclinons-nous dans la prière. Nous nous souvenons des paroles de Proverbe, notre Père, où l'auteur dit « La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Quoi que nous sachions, nous sommes des imbéciles si nous ne t'honorons pas. Nous t'honorerions avec un cœur de gratitude pour les précieuses promesses, les promesses magnifiques que tu nous as données. Que tu sois en nous, marche en nous, que tu sois notre Dieu, et nous serons ton peuple. Tu nous embrasses, tu nous accueilles, tu nous reçois, tu seras notre Père, et nous serons tes fils et tes filles. Ô Père, merci de tout ce qui est réalité en Christ, et à cause de ces précieuses promesses, nous nous purifions de toute souillure et poursuivons une sainte séparation de tout ce qui te déshonore et nous souille. Merci pour un message aussi clair et direct de la part des Écritures, pour l'affirmation de sa vérité. Maintenant, Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à faire des applications dans les domaines de la vie où nous sommes appelés à répondre avec obéissance. Et en même temps, Seigneur, donne-nous un cœur plein d'amour pour les personnes prises dans des systèmes pervers. Puissions-nous les attraper comme pour faire un marquage au fer rouge, sans nous approcher de trop près, juste assez pour tendre la main avec l'Évangile et les enlever, craignant pour nous-mêmes de peur de nous faire brûler si nous restons trop près. Seigneur, nous savons que tu honoreras notre fidélité lorsque nous nous efforcerons de vivre cela pour la gloire de ton Fils. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.